Oui, alors aujourd'hui à l'émission Rêver pour moi, je reçois Frédéric Bernier. Alors Frédéric a récemment dirigé un numéro de la revue Contre-jour dans lequel elle a écrit un article sur la forme. Ce numéro de la revue Contre-jour s'intitule Écrire entre bruit et silence. Et c'est un numéro qui essaye de penser et qui pense en fait le silence et puis le rapport entre la littérature et ce qui serait de l'ordre du bruit ou du silencieux. Ce que j'ai voulu, c'est que Frédéric peut-être nous lise un passage du texte qu'elle-même a écrit, qui fait partie donc du numéro de Contre-jour. Et à partir du passage que tu vas lire, Frédéric, on va commencer à parler justement du thème qui aujourd'hui va peut-être nous porter, qui sera la forme dans le rêve et la littérature. Alors on t'écoute te lire ce passage de la revue Contre-jour.
D'accord. Simplement dire en fait que c'est en écrivant ce texte que je me suis rendu compte que la question du silence, pour moi, du silence en littérature, ça me menait à cette autre question-là qui est l'informe. Alors je vais lire un petit passage donc de ce texte. Il me semble que l'informe dont je cherche la trace dans les écrits des autres, faute de l'écrire, est précisément ce qui, ne préexistant à aucune rencontre dans la langue, remportant la rencontre possible. Fond anonyme et difforme, hydre sans tête de l'intime qui n'a rien à voir avec le moi, qui fait voler l'image et l'identité en éclats. Dans le silence, il y a cette volonté de perdre le moi, ce qui me donne une forme, me fait être ceci et non cela, paraître comme ceci ou comme cela, irrémédiablement. Ce personnage de roman, de mon roman inécrit, n'est peut-être rien d'autre, finalement, que la personnification, forcément vide, sans personnalité, et rigoureusement asexuée, de la pulsion de mort. Se débarrasser de soi, s'abîmer dans le dehors, c'est ce qu'on cherche dans le voyage, s'il est errance et non-tourisme, dans la lecture ou dans l'écriture. Comment rester dans la vie, par-delà l'imaginaire, sans le personnage, l'intrigue, le récit, toutes ces images, tout cela qui me fatigue autant que moi? Comment suivre jusqu'au bout la pulsion de mort de l'écriture sans aboutir à un écrit qui n'est que sa propre théorie squelettique? Comment se débarrasser de l'image et de soi en dehors du mourir, du cadavre?
Alors, je t'ai fait lire ce texte que tu as écrit parce que j'avais l'impression qu'il plaçait d'emblée les enjeux de l'informe par rapport à la littérature, par rapport à une certaine esthétique aussi littéraire. Et puis, il posait aussi la question de l'impossibilité ou de la possibilité de trouver une forme à sa propre écriture. Donc, peut-être on va commencer par les écrits des autres avant d'arriver au tien. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu comment l'informe s'articule dans la thèse que tu viens de déposer, que tu soutiendras très prochainement, où tu travailles sur Saint-Denis Garnaud et Beckett.
En fait, dans ma thèse, je ne les ai pas au départ pensés en termes d'informe. Ce petit texte-là, comme je disais, ce mot-là s'est imposé à moi au moment de l'écrire et je l'ai écrit donc à la fin de ma thèse. Mais effectivement, je me suis rendu compte que tout se tenait un peu ensemble dans cette masse informe. Mais c'est vrai que dans ma thèse, j'ai essayé de mettre Beckett et Saint-Denis ensemble, Saint-Denis Garnaud ensemble, de les lire ensemble, à partir notamment de leur traitement du corps, de ce qui se passe dans ces textes-là entre le corps et la voix, notamment, et comment la voix de ces textes maltraite le corps ou essaie de trouver d'autres corps ou un autre espace pour le corps, d'autres types de corps. Parce qu'enfin, il me semblait que, même si ce sont des œuvres très différentes à plusieurs égards, il y a dans ces deux œuvres-là, donc de Beckett et Garnaud, quelque chose qui a trait avec le trop de corps, la nécessité de se débarrasser d'un corps en trop, pour peut-être mettre à la place un corps qui se tiendrait mieux.
dans une sorte de verticalité, ou encore un corps, je pense à Beckett, un corps qui tiendrait strictement dans la voix, mm-hmm. ou dans des évocations de à travers l'image, mm-hmm. qui invente un nouveau type de corps. Donc voilà, et dans quelle mesure est-ce que ça a rapport à l'informe? Je pense que dans les deux cas, le texte, enfin les textes de Beckett et de Garneau répondent peut-être à l'informe en tentant justement, comme je disais tout à l'heure, de créer de nouvelles formes, des formes qui puissent se tenir par la voix.
C'est-à-dire d'échapper à l'informe. Elles essayent de traverser l'informe ou de l'oblitérer.
Ben, de travailler à partir de ça, peut-être, mm-hmm. dans les... je pense que c'est peut-être ce qui les distingue aussi. Mm-hmm. Je pense que chez Beckett, il y a quelque chose de franchement assumé, mm-hmm. de ce travail-là, et quelque chose de plus systématique aussi. Bon, les œuvres de Beckett et de Garneau, ne serait-ce qu'en termes de longueur, elles n'ont pas été élaborées sur une même plage de temps, mm-hmm. et elles répondent certainement pas aux mêmes nécessités sur le plan personnel. Je pense qu'il y a vraiment une œuvre qui s'est élaborée chez Beckett, alors que chez Saint-Denis Garneau, il y a le début d'une œuvre, mm-hmm. qui s'est élaborée à partir de ces problématiques-là, mais qu'il y a quelque chose qui n'a pas été possible chez Garneau, qui a été possible chez Beckett. Et donc, je pense que Beckett a vraiment travaillé à partir, mm-hmm. de ce qui s'esquisse de l'informe dans le rapport de la voix au corps. Et en fait, avant d'en venir à des procédés qui seraient de l'ordre de l'épuration, de l'avènement d'un autre corps, mm-hmm. dans l'image, dans ces petites images qui trouent les textes dans les toutes dernières œuvres de Beckett, il y a toute une exploration du corps qui est autrement plus dans la chair, justement. Il a vraiment exploré l'informe dans ce que l'informe peut avoir de plus monstrueux, de plus du corps morcelé, des cris, de la viande, du débris, avant d'en venir donc à quelque chose de plus dépouillé, mm-hmm. jusqu'à l'os. C'est là sans doute que se distinguent les deux œuvres. Enfin, on n'a pas affaire à la même trajectoire, mais on a affaire quand même à des textes des œuvres qui se croisent à un, mm-hmm. certain moment.
Mm-hmm. Il y a d'autres œuvres comme ça que tu n'as pas étudiées dans ta thèse, mais qui d'un seul coup se sont manifestées, qui étaient peut-être là présentes dans ta tête au moment de l'élaboration de la thèse, mais qui d'un seul coup t'appelle plus. Tu m'as parlé d'Antonin Artaud, qui justement lui travaille sur l'informe et qui semble maintenant te faire vraiment des signes et des clins d'œil. Tu m'as dit aussi Michaud. Il semble que justement ta thèse, qui portait peut-être pas directement sur l'informe, mais qui le posait d'une autre façon, d'un seul coup voit naître un intérêt manifeste pour d'autres œuvres avec lesquelles tu avais un rapport parfois ambigu.
Mm-hmm. Effectivement. En fait, ma thèse, je l'ai pensée à partir du dépouillement, d'abord, des poétiques du dépouillement, et c'était en fait un peu dans la lancée de ce que j'avais fait déjà à la maîtrise sur l'effacement. Donc, ça a vraiment commencé avec, je dirais, une espèce de fascination pour l'effacement, le dépouillement, le peu, le rien. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée vis-à-vis du débordement. Je me suis rendu compte que, et c'est clair chez Beckett, mais c'est aussi vrai chez Saint-Denis Garneau, que cette recherche-là du peu ou du dépouillé ou du presque rien faisait en sorte qu'à un moment donné ou un autre, on avait affaire avec ce qui, au contraire, déborde. Mm-hmm. Et chez Beckett et Garneau, c'est très lisible, notamment avec la figure du double.
Mm-hmm.
Et j'ai l'impression que c'est, en fait, plus l'œuvre cherche à aller dans le presque rien, plus finalement, ou être dans une espèce de volonté de coïncidence, mm-hmm. plus finalement ça se met à ne pas coïncider beaucoup et au contraire à déborder, à proliférer, mm-hmm. à s'engendrer de toutes parts, donc à être dans une espèce de surplus, d'excès, plus ou moins charnel ou incarné, ou des espèces de mauvaises incarnations, mais qui n'en finissent plus de sortir. Et on a ça très, très clairement chez Beckett. Un texte comme L'Innommable le dit très bien, où on est à la fois dans l'absence du corps et dans la prolifération mm-hmm. des personnages et des formes qui n'en finissent plus de ne jamais être la bonne, mais qui sont tout de même là. On n'est pas dans une absence, il y a un surplus de présence mm-hmm. en même temps dans lequel on ne se retrouve pas. Et je pense que, enfin, une œuvre comme celle de Michaud aussi... dit très très bien ces deux aspects-là, qui sont peut-être finalement les deux aspects de l'informe, c'est-à-dire à la fois une recherche, chercher à se désencombrer des formes ou des images ou de tout ce qui viendrait fixer des identités. Et en même temps, ce moment où, au contraire de trouver quelque chose qui puisse tenir, ben, tout se met à déborder, à proliférer. Et, ce que je trouve intéressant, c'est que tout ça, enfin, tout se renverse toujours avec ces problématiques-là. Non seulement on passe du peu au surplus, mais aussi il y a quelque chose d'une bascule entre la douleur et la jubilation. Mm-hmm. Bon, chez Garneau, c'est moins vrai. Chez Beckett, c'est très, très, très clair. Il y a chez Beckett à la fois une espèce de jubilation de la mascarade dans L'Innommable, par exemple, ou de l'invention, de la fiction, de tous ces pantins qui sortent d'un peu partout. Et chez Michaud aussi, c'est très clair, une espèce de jubilation, de possibilités, infinies possibilités plastiques, en fait, mm-hmm. ou infinies possibilités de l'imaginaire. Parce que l'informe, c'est, en fait, aussi pouvoir prendre toutes les formes. Mm-hmm. Donc... jubilation de qui est celle de l'imaginaire, mm-hmm. en fait, des possibilités même de faire œuvre ou d'écrire et mais avec toujours cette autre face où justement il y a quelque chose de peut-être plus douloureux qui cherche à en sortir de cette prolifération là. Donc
Et Artaud, alors, tu...
Ben, Artaud, comme je suis plus à l'aise au départ avec ce qui est du côté du dépouillement, Artaud m'a longtemps fait très peur. En même temps, comme je disais tout à l'heure, on a appelé notre fils Antonin, Martin et moi. Alors, je me disais, bon, ben, il faudrait peut-être quand même que j'en vienne un jour à lire Antonin Artaud, puisque mon fils porte le même prénom. Mais je pense que j'avais peur un peu de ce qui, justement, chez Artaud, est vraiment là du côté du débris ou de l'informe, mais de l'informe monstrueux, là. De l'informe... du côté justement de la viande et de ce qui peut me faire peur moi-même dans ce que parce que tout ça exerce manifestement une grande fascination chez moi, puisque je me rends compte que je me retrouve à travailler mm-hmm. un peu toujours sur ces questions-là en les prenant sous des angles différents, mais je dirais que Artaud là c'est vraiment l'angle le plus dangereux et le plus difficile à aborder mm-hmm. Pour moi, mais que je vais essayer de faire dans mm-hmm. les prochaines années.
Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce que tu dis, c'est comment la littérature a un effet sur toi. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle de littérature, on peut parler de la forme, on peut parler de
comment dire, d'une appréciation, d'un goût. Mais là, tu es vraiment dans une réaction très vive à certaines œuvres, réaction qui est des fois très positive, ou alors des fois, tu as dit peur. Hein. Mm-hmm. Moi, je me sens très proche de ça parce que j'ai l'impression que mon rapport à littérature est un rapport des faits. C'est-à-dire, vraiment, je me prends les textes en pleine figure mm-hmm. ou pas. Et toi aussi, ça te semble... être quand même central à ta lecture, c'est-à-dire l'effet qu'il y a sur l'effet que les textes ont sur toi comme lectrice. Tu pourras répondre là-dessus, mais je voulais juste enchaîner sur le fait que tu écris, donc tu écris beaucoup de choses et beaucoup de sous la forme essayistique ou bon sous la forme dissertative mm-hmm. De la thèse, et tu t'apprêtes à peut-être rentrer dans un projet qui serait une écriture plus comment dire, plus personnelle, peut-être moins écrire sur les textes des autres mm-hmm. que écrire un texte qui parlerait je ne sais pas, sûrement à partir des autres textes, parce que je pense que c'est très important dans ta démarche, mm-hmm. tu le dis dans ton texte sur la forme, mais en même temps qui s'approprierait les textes d'une façon différente. Mmh. Et puisque la question de la forme te travaille tant, on peut tout de suite se demander, toi-même, comment tu imagines un texte qui nécessairement doit dire quelque chose de la forme, ou peut-être pas. Est-ce que tu contournerais la question? Comment tu imagines ces textes que tu vas écrire, que tu t'apprêtes à écrire maintenant que ta thèse est un peu derrière toi, ou pas tout à fait, parce que tu vas la soutenir, mais bon.
Je dirais que je ne me l'imagine pas. C'est à la fois le problème et je pense un peu normal, parce que, enfin, j'ai vraiment commencé à essayer d'aborder ces questions-là dans ce petit texte-là qui s'intitule « L'informe », et je me suis rendu compte de beaucoup de choses en l'écrivant. C'est difficile pour moi d'avoir des projets d'écriture, parce que justement avoir un projet, c'est déjà projeter des formes. Et souvent, en se raccrochant à des formes préexistantes, que ce soit le roman, la poésie ou l'essai, je me rends compte finalement que ce qui m'intéresse en littérature, c'est souvent ce qui ne tient pas dans ces formes-là. Ce qui ne veut pas dire que j'aime pas certains romans ou certaines poésies, mais je pense qu'ils m'intéressent pour autant justement qu'ils débordent de ces cadres-là et qui mettent en jeu quelque chose de ces formes-là. Je pense que c'est pas pour rien non plus que j'ai travaillé sur Beckett et Sainte-Lune Garneau, où là, on a moins affaire à des formes qu'à des voix qui traversent ces formes-là. Donc oui, je pense que... Enfin, j'ai longtemps été habitée par le désir d'écrire, et j'ai l'impression que ce désir-là n'a jamais trouvé véritablement la forme qui lui conviendrait, et que le travail que je fais sur des textes m'aide à tourner un peu autour de ce désir-là, à m'en tenir à distance en même temps qu'à l'apprivoiser. Mais petit à petit, je pense que je vais y venir. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose que je peux projeter. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que je vois un peu ce qui peut sortir. Mais ça a quelque chose de très terrifiant pour moi, en fait. Je pense que je m'intéresse à ce qui, dans les textes, jusqu'à un certain point, me fait peur, effectivement. Mais j'ai très peur aussi, justement, de me mettre à écrire en dehors des textes et de tomber là-dedans toute seule. Parce que là, il s'agirait de mon propre informe, de l'informe qui est à la fois peut-être ce qui nous est le plus propre et ce qui nous est pas propre du tout. C'est peut-être ça qui fait très peur.
Est-ce que le livre, c'est-à-dire le fait de penser que peut-être on écrira un livre, parce que c'est-à-dire quelque chose de complet. Parce que bon, malgré tout, l'article, c'est autre chose. Matériellement, c'est un morceau d'un tout. Mais est-ce que le livre est rassurant pour toi? C'est l'idée que tu pourrais écrire un livre, ou que tu as fait une thèse, ou même tu as déjà publié ton mémoire de maîtrise sur Brault, et sur les essais de Brault. Et je me dis, est-ce que le livre, c'est ça, est-ce que le livre vient donner un sentiment de sécurité parce qu'il est une forme malgré tout, comment dire, déjà donnée, hein? Et ou alors, parce que je pensais à Artaud qui finalement, moi je trouvais que c'était, et puis je suis pas la seule à l'avoir pensé, que le mettre en œuvre complète, c'était presque, bon, presque contre ce qu'il voulait lui-même, parce qu'il avait écrit des choses qui finalement ne tenaient pas debout. Tu parlais de se tenir tout à l'heure. Lui, il avait écrit des choses qui peut-être ne pouvaient pas se mettre tout ensemble, ne pouvaient pas faire un vrai livre. Mais bon, tant mieux pour nous. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de ce rapport au livre ou à l'article qui te travaille ou,
Pas vraiment. Je comprends bien ce que tu me dis là par rapport à Artaud, mais je pense que j'en suis même pas là. Encore à penser à. Parce que livre, on est déjà dans l'idée de publication, l'idée d'institution, d'éditeur et tout, mais je pense que j'en suis encore dans l'appréhension de la première phrase et de la deuxième et de la. Et, mais je pense pas que j'ai peur du livre. Mais plus de. Et pourtant, ça devrait aller ensemble, mais plus de ce qui sort au dehors, de ce qui devrait plutôt rester à l'intérieur.
Ok.
Ouais.
Donc, mais, t'as toujours plus. De toute façon, le livre ouais. pour toi n'est pas un contenant sûr, non, de toute façon.
Non, je pense que le contenant sûr pour moi, c'est les textes des autres.
Ah.
Ce qui fait que, bon, j'ai pu faire paraître donc ce mémoire de maîtrise. Et bon, évidemment, après un certain nombre d'années, on se dit on n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas écrit ça comme ça, ou on est plus ou moins à l'aise avec certaines choses qu'on a faites, mais je ne me sens pas dans un rapport de me dire « Ah mon Dieu, j'ai été trop exposée » ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même une étude. Là.
Oui.
Donc, on a quand même le paravent de cette autre œuvre-là. Je pense que tout le défi pour moi, c'est d'écrire sans les autres.
Sans contenant, alors.
Oui, c'est ça, mais que c'est ça. Le contenant, c'est moins l'article ou le livre. C'est pas tellement là que ça se joue.
C'est chez l'auteur, le texte.
Oui, le texte de l'autre. Oui.
On va peut-être arriver au rêve. En fait, le rêve me semble souvent avoir, malgré qu'on ait beaucoup insisté sur le fait.
Oui, alors aujourd'hui à l'émission Rêver pour moi, je reçois Frédéric Bernier. Alors Frédéric a récemment dirigé un numéro de la revue Contre-jour dans lequel elle a écrit un article sur l'informe. Ce numéro de la revue Contre-jour s'intitule « Écrire entre bruit et silence ». Et c'est un numéro qui essaye de penser, et qui pense en fait, le silence et puis le rapport entre la littérature et ce qui serait de l'ordre du bruit ou du silencieux. Ce que j'ai voulu, c'est que Frédéric peut-être nous lise un passage du texte qu'elle-même a écrit, qui fait partie donc du numéro de Contre-jour. Et à partir du passage que tu vas lire, Frédéric, on va commencer à parler du thème qui aujourd'hui va peut-être nous porter, qui sera l'informe dans le rêve et la littérature. Alors on t'écoute te lire ce passage de la revue Contre-jour.
D'accord. Simplement dire en fait que c'est en écrivant ce texte que je me suis rendu compte que la question du silence, pour moi, du silence en littérature, ça me menait à cette autre question-là qui est l'informe. Alors je vais lire un petit passage donc de ce texte.
Il me semble que l'informe dont je cherche la trace dans les écrits des autres, faute de l'écrire, est précisément ce qui, ne préexistant à aucune rencontre dans la langue, remportant la rencontre possible. Fond anonyme et difforme, hydre à sans tête de l'intime qui n'a rien à voir avec le moi, qui fait voler l'image et l'identité en éclats. Dans le silence, il y a cette volonté de perdre le moi, ce qui me donne une forme, me fait être ceci et non cela, paraître comme ceci ou comme cela, irrémédiablement. Ce personnage de roman, de mon roman inécrit, n'est peut-être rien d'autre, finalement, que la personnification, forcément vide, sans personnalité, et rigoureusement asexuée, de la pulsion de mort. Se débarrasser de soi, s'abîmer dans le dehors, c'est ce qu'on cherche dans le voyage, s'il est errance et non tourisme. dans la lecture ou dans l'écriture. Comment rester dans la vie par-delà l'imaginaire, sans le personnage, l'intrigue, le récit, toutes ces images, tout cela qui me fatigue autant que moi? Comment suivre jusqu'au bout la pulsion de mort de l'écriture sans aboutir à un écrit qui n'est que sa propre théorie squelettique? Comment se débarrasser de l'image et de soi en dehors du mourir, du cadavre?
Alors, je t'ai fait lire ce texte que tu as écrit parce que j'avais l'impression qu'il place